Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation musicale. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Pierre Dartiguelong, vice-président de Basketland. Et comme je le disais hors antenne, voilà, moi, souvent, dans les Flash Info, j'en parle parce que ce que font les filles, c'est beau. Voilà, et on est très content de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission.
Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi d'être avec vous.
Bonjour.
C'est gentil partagé. De parler de nous. C'est gentil.
Ah ben, c'est normal. Hein. Et puis, alors, invité exceptionnel, ah. Il me fallait du renfort. Donc, j'ai Marc avec moi, que vraiment, c'est sa spécialité, c'est le sport. Vous l'avez déjà entendu, il est sur l'antenne de Souston de temps en temps. On a déjà fait des émissions en quatre mains. Et dans quelques années, vous pourrez vous dire « Ah ouais, c'est le gars là à la télé, mais je me rappelle, je l'ai vu la débuter sur Souvenir FM. »
Ah ouais, c'est clair.
Mais oui, voilà.
Espérons-le. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Monsieur Dartiguelong, bonjour à tous. Bonjour. Très, très content et effectivement honoré aussi de recevoir le vice-président de ce beau club de basket.
Très bien, dont on est tous fiers du coup. Alors on va d'abord écouter le Flash Info National International et ensuite on démarrera la première partie de cette émission.
Et c'est parti pour l'invité du 12-13 à Dax, en compagnie aujourd'hui de Pierre Dartiguelong, qui est donc vice-président de Basketland. Le sujet du jour, c'est donc le basket, c'est le sport et la réussite de ce club. Mais alors à Souvenir FM, avant de rentrer dans les détails de la saison, dans l'historique du club, etc. À Souvenir FM, traditionnellement, on fait une présentation des invités par les invités. Voilà, on demande donc à chaque personne qu'on reçoit de nous exposer un peu sa trajectoire personnelle. Voilà, son parcours de vie qui a amené l'invité jusqu'à ce micro. Donc on va vous demander, Pierre, de vous prêter à cet exercice en introduction de l'émission.
C'est pas facile cet exercice. Ouais. En fait, à titre professionnel, en fait, pour commencer, j'arrive de la Chalosse, je suis un Gaujacois. Et donc j'ai travaillé la plupart de mes années autour du commercial. Sur plusieurs étapes, mais surtout autour du milieu bancaire où j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans un groupe bancaire, on va dire, midi régional. Qui m'a conduit à développer au fur et à mesure des années une activité autour de l'immobilier. Et je me suis installé, j'ai créé une agence immobilière il y a une douzaine d'années. Ça, c'est le côté professionnel, une agence immobilière que j'ai sur Dax. J'ai, en parallèle, je suis un passionné du basket. Donc, j'ai pu jouer, j'ai pu entraîner, j'ai pu être dirigeant. Et j'ai, il y a ça, une vingtaine d'années, créé un événement là, avec l'équipe des sports de Canal+, là, qui s'appelait au départ les fêtes du basket de la SPTT et après les baskets folies. C'était l'idée d'organiser des matchs d'exhibition avec des médailles olympiques, des champions du monde, etc. Ce qui m'a conduit à obtenir et avoir un certain réseau et implicitement à l'époque le président de Basketland et d'ailleurs mon tube de Basketland, c'était à l'époque Dominique Lafargue qui m'avait proposé de rejoindre le club de Basketland.
Voilà. Vous avez franchi le pas et vous voilà maintenant président du meilleur club de basket français féminin. Voilà,
vice-président,
pardon. Merci de me le rappeler. C'est pas faute de me l'avoir rappelé hors antenne.
Alors vous avez fait le tour de tous les postes, du coup.
C'est ça.
C'est bien.
Oui.
Oui. Oui. Moi, j'ai toujours tendance à dire que le titre n'est pas très important. C'est surtout l'homme qui le conduit. Merci. Vous connaissez la formule. Je suis arrivé d'abord au sein du conseil d'administration et après j'ai été co-président avec Didier Desousses du club pendant 3 ans sur une période charnière du club. Et j'ai gardé une vice-présidence avec en charge le partenariat privé et un peu un œil sur le sportif parce que j'adore le basket en fait. Mmh.
Alors Basketland aujourd'hui, c'est donc les championnes de France, double championne de France en titre, un palmarès qui s'étoffe là. On peut dire que c'est pas loin d'être l'équipe française de la décennie. Mais avant ça, alors certains auditeurs qui sont pas forcément branchés sport ou basket n'ont pas forcément à l'esprit l'historique du club qui est tout à fait hors norme en fait à l'échelle, je pense même du pays. C'est l'histoire d'un C'est l'histoire d'un club de basket qui part d'un village de 350 habitants dans le Tursan, c'est ça ?
Dans la Chalosse, c'est ça.
Dans la Chalosse.
Ouais, c'est ça. Ce club est né d'un petit village, pour ne pas le citer, dans ces Eyre-Montcube, ouais. Où il y avait, dans ce village, il y a toujours eu de très bons jeunes, en fait, garçons comme filles. Mais là, il y a une génération de filles qui était exceptionnelle et qui a conduit ce club du niveau départemental à la Nationale 1. Et à l'époque, évidemment, le club était... avait des difficultés financièrement parlant, pas dans la gestion au quotidien, mais il ne voulait pas franchir
le pas
parce qu'il se mettait, il risquait de se mettre en difficulté financièrement. Et donc, les dirigeants de l'époque ont eu cette idée de solliciter le département des Landes et d'abandonner les droits sportifs du club de l'époque au bénéfice du département. Ce qui a permis au club d'accéder à certaines aides et aussi après ce club à l'époque a décidé aussi de quitter leur salle, la salle mythique d'Eyre-Montcube pour partir
à Saint-Sauveur,
à la salle à Loubert. Voilà, ça a été le premier pas vers la nouvelle ère du club.
On parle, quand vous dites à cette époque, on parle de quoi, du début des années 2000 là ?
Oui, c'est ça, autour de ça, oui.
Donc il y a une ascension de la départementale jusqu'au niveau national début des années 2000, et puis il y a une montée après, fin des années, en 2008, 2009, non ? Vous montez en première division ?
Très rapidement après ce choix, je ne me souviens plus précisément de l'année, mais très rapidement après ce choix, le club, donc qui devient en Basketland, eh bien, on gagne le titre de champion de France de Ligue 2 et monte donc en Ligue professionnelle.
Et depuis, vous ne l'avez pas quitté, cette Ligue professionnelle,
et
vous jouez même la Coupe d'Europe. Je crois que la première Coupe d'Europe, c'est 2015. Vous faites cinquième du championnat. Et là, donc, vous parliez de la délocalisation de Eyre-Montcube à Saint-Sever. L'année où vous jouez pour la première fois la Coupe d'Europe, vous vous délocalisez une deuxième fois ou vous bougez de Saint-Sever à Mont-de-Marsan là.
Oui, il y avait à cette époque, je ne veux pas trop y revenir parce que je trouve que le sujet est derrière, mais il y avait un projet de salle d'un maire qui portait ce projet et une élection lui a fait perdre la mairie et le nouveau élu, lui par contre, n'était pas favorable au projet. Donc ce projet s'arrête. On se retrouve là dans une réelle difficulté. Parce que nous n'avons plus de structure, on jouait à la Loubert, à Saint-Sever par des autorisations qui nous étaient
des dérogations,
mais qui ne pouvaient pas perdurer. Donc là, il y avait un vrai choix et un vrai risque, c'était de quitter la structure de Saint-Sever pour aller à Mont-de-Marsan. Et donc il y a ce premier choix qui correspond derrière à une qualification pour le recoupe.
Oui, la deuxième Coupe d'Europe, pour ceux
qui... C'est ça. Ça a été une période très difficile où on était association à l'époque, donc on était des bénévoles à porter un risque. Et à l'époque, des institutionnels locaux qui ne voulaient pas adhérer à ce projet. Donc il y a eu un grand écart, là, des prises de position des uns et des autres. Bon, au final, on se retrouve à Mont-de-Marsan et on doit donc reconstruire un projet à Mont-de-Marsan, se faire accepter aussi
du territoire,
etc. Donc ça a été une période inconfortable, très inconfortable.
Vous avez réussi à traverser. Vous parliez du fait que vous étiez une association. Quand est-ce que de quand date en fait le passage au club professionnel et qu'est-ce que ça a impliqué
Donc on passe SASP. Dès notre arrivée à Mont-de-Marsan, Donc là, pour le coup, le risque, il est différent pour ceux qui portent le projet, puisque il est moins personnel, il est plus à la hauteur de parts que vous achetez à l'intérieur de cette SASP. Donc, il est plus dilué, on va dire. L'embauche d'une directrice générale aussi dans le choix du club fait que on se retrouve avec quelqu'un qui peut porter ce projet au quotidien. Voilà, donc en l'occurrence, à l'époque, c'était Marie-Laure Lafargue qui est recrutée. Et évidemment, on rentre plus dans des gestions plus professionnelles, plus optimisées.
Et puis après, le club prend une autre dimension avec l'arrivée de la star du basket français féminin, Céline Dumerc, qui est tarbaise, il me semble, donc elle pas très loin. Je crois qu'elle signe en 2016 en tant que joueuse et vous avez profité de son talent, je crois, pour gagner quelques titres avec elle, jusqu'à ce qu'elle se retrouve aujourd'hui dans l'organigramme du club en tant que directrice sportive, toujours donc en activité. Et,
c'est ça.
Ça a été une personnalité importante.
Oui, c'est ça. À cette époque-là, vous savez, on était toujours placés, on ne gagnait jamais. On n'était pas incontournable, en fait, dans ce paysage, on va dire, départemental, régional. On voyait bien qu'on n'arrivait pas à percer sur le public. C'était pas... Et il y a eu cette opportunité exceptionnelle de solliciter Céline. Et qu'elle accepte surtout. Elle est native effectivement de Tarbes. Elle avait des choix à faire. Un choix qui était ou de partir à Prague ou de se rapprocher finalement de sa famille.
Et la fin de carrière arrivant, elle a fait le choix.
On a réussi à la convaincre. Ouais, c'est ça.
Félicitations.
Voilà. C'est souvent ça les Landais. Ils aiment bien rester ou revenir chez eux.
C'est ça.
C'est normal. C'est parce qu'on est bien. C'est le moment de faire notre première petite pause. On va écouter un petit peu de musique et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Allez, zou. Et nous voilà de retour avec Pierre et Marc. Alors, on a écouté un petit Nirvana. Alors, vous savez que dans mes émissions, j'ai souvent l'habitude de mettre un petit truc caché, plus ou moins. Là, il y a un rapport avec le basket, effectivement. Mais si vous ne le voyez pas, je vous engage à regarder le clip sur Internet et vous direz « Ah mais oui, bien sûr !» Voilà. Alors, moi, j'avais une petite question, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup la société, les gens. On reçoit plein d'associations, etc. Mais c'est vraiment une histoire de filles, tout ça. Voilà. Pourquoi des filles parce que, comme je disais hors antenne à mon invité, des clubs purement féminins qui sortent du lot comme ça, qui sont vraiment connus plus que des fois les garçons, il n'y en a pas des masses. Donc c'est vraiment une aventure féminine.
Oui. Moi, c'est une opportunité, en fait. J'ai été entraîneur pendant 15 ans, à peu près. Et juste après mes diplômes d'entraîneur, j'ai un club, le premier club qui est venu me solliciter, c'était un club de filles. Et du coup, je suis resté dans le basket féminin. En fait, j'ai changé plusieurs fois d'équipe et de club. Mais c'est vrai que finalement, c'est comme un réseau qui se crée. On sait que j'ai entraîné un club de filles, donc un autre club de filles, faut solliciter, etc. Donc naturellement, je connaissais le club des Romans Tube à l'époque et ses dirigeants, et ça s'est fait, je pense, par une forme d'appétence ou de... Je sais pas quel est exactement le terme, mais en tout cas, une conviction sur la qualité du basket et du basket féminin.
Et puis il y a une histoire particulière entre le basket et les Landes aussi, il faut le dire, parce que à l'échelle nationale, les Landes sont le premier département en termes de nombre de licenciés quand on le rapporte au nombre d'habitants. Et autre particularité à cela, c'est le basket féminin, parce que on est sur du 50-50 en termes de nombre de licenciés, grosso modo.
Parité.
Alors qu'à l'échelle nationale, en général, quand on a à peu près un tiers de filles pour deux tiers de garçons, donc c'est important de le souligner. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous éclairer sur les raisons qui font qu'il y a une sorte d'histoire d'amour entre les Landes et le basket, ou en tout cas qu'il y a une vraie culture du basket dans les Landes, et notamment du basket féminin.
Oui, il y a, à l'origine, c'était les instituteurs et les prêtres qui organisaient... Tu avais constaté qu'en fait, dans les petits villages de 300 habitants ou de 200, ou dans les petits villages de Chalossé ou de Tursan, etc., et bien, il n'y avait pas suffisamment d'effectifs pour faire du foot ou du rugby. Et du coup, se trouver 5 joueurs ou 5 joueuses ou 6 ou 7, eh bien, dans les cours des écoles, on les trouvait. Et ça a créé du lien, en fait. Il y a eu des épopées, je pense à l'épopée des cadets de Chalos qui jouent à l'époque un quart de finale de Coupe de France, dans les arènes de Mont-de-Marsan, etc. Il y a plein d'histoires magiques, magnifiques. Parce que, à l'époque, voilà, c'était finalement la possibilité de faire, de rassembler les jeunes du village ou les jeunes de la région, là, et créer une appartenance au territoire, déjà.
Et il y a effectivement des histoires avec des matchs dans les arènes. Vous parliez de Mont-de-Marsan, je crois qu'il y a eu aussi dans l'histoire des matchs de basket dans les arènes de Dax, etc. Il y a des photos d'archives, où il y a, même sur Internet, vous pouvez tomber sur des conférences là-dessus. Il y a un chercheur de l'université de Bordeaux, dont j'ai perdu le nom, mais vous pouvez trouver sur Internet, qui théorise.
Éric Lavry.
voilà, Éric Claverie qui théorise cette histoire du basket, du basket dans les Landes. On a bien démarré l'émission avec un peu l'historique du club. Moi, j'aimerais qu'on revienne là pendant quelques minutes avant la deuxième pause sur la saison qui vient de se passer. Une saison pleine de réussite. C'est la plus belle, vous le disiez, hors antenne, saison du club d'un point de vue sportif. Quelle a été la recette du succès cette année? Ça a matché entre les coachs et les filles, c'est l'ambiance, c'est les joueuses.
Ouais, alors c'est sûr, c'est la plus belle saison du club, ça c'est incontestable. Faire un doublé, c'est dur de faire un doublé. Je crois que le dernier c'était en 2018 ou 17. Donc c'est super dur de faire un doublé et accéder au quart de finale de l'Euroleague. Bon là, c'est être dans les 6 meilleures équipes d'Europe, c'est fabuleux. Ouais. Non, on s'est aperçu très vite quand on a lancé ce il y a 3 ans, le recrutement de ce groupe, c'est que très très vite, il y a eu un sentiment de camaraderie qui s'est dégagé au sein de ces joueuses. Vous savez, on peut être champion et ne pas être pote. Ça, on a souvent constaté ça. Mais faire un exploit XXL, c'est forcément une histoire de femme, en l'occurrence. Une histoire d'amis, de copines, il y avait une symbiose entre elles qui était exceptionnelle en fait. Hein. Très vite, on s'apercevait que ce groupe faisait cœur. Il n'y avait pas de... Voilà, c'est rare d'avoir ça dans un effectif professionnel. On peut avoir 6 joueuses qui s'entendent et puis 2 par-ci, 2 par-là. Et ça n'empêche qu'on peut faire du résultat, mais pour aller chercher comme ça...
Et le championnat et la coupe,
le sublime, c'est le doublé, c'est qu'effectivement, voilà. Parce que quand on prend étrangement ce groupe, et je fais pas injure à la qualité des joueuses, mais bon voilà, c'est pas des grands noms du basket européen. Hein. Donc elles ont pu les battre, ces grands noms, c'est qu'il y avait autre chose. Bon, il y avait un supplément d'âme, absolument, c'est le bon terme.
Et qui est, j'imagine, véhiculé aussi par peut-être cet esprit landais, un peu village que vous arrivez en tout cas à conserver malgré les résultats qui continuent à.
Oui. C'est un gros travail d'avant-saison de faire passer l'ADN, de faire comprendre aux joueuses qui arrivent où elles sont. Oui. C'est notre plus gros travail.
Tout à fait. C'est déjà le moment de faire notre deuxième pause. On va écouter encore un petit peu de musique et le flash info local cette fois-ci. À tout de suite.
Et nous reprenons le fil de notre discussion, avec Pierre Dartiguelong, vice-président de Basketland. Avant la dernière pause, on s'était quitté sur une question. La recette du succès. Vous parliez du groupe de filles cette année. Qui avait fonctionné d'un point de vue sportif mais aussi extra-sportif, hein, une forme d'osmose. Ma question est la suivante, comment on fait quand on est vice-président ou avec la direction sportive pour justement essayer chaque année dans le recrutement ou même dans le recrutement des jeunes, etc., hein, mais pour essayer au mieux d'avoir justement des filles qui, en plus d'être fortes au basket et avoir de l'avenir, du talent, etc., sont capables d'être des bons éléments dans un groupe. Voilà.
Oui, ça part du coach, ça part de Julie Barret. En l'occurrence, il y a des convictions de jeu, des convictions de méthode et aussi des convictions d'état d'esprit. Julie est chez nous depuis des années, elle connaît l'ADN et l'état d'esprit de la maison. Donc, il faut qu'elle recense tous ses axes et qu'elle crée donc à partir de là une cellule de recrutement. Elle s'appuie sur des agents, elle va créer des équipes. Dès le mois de novembre, elle va créer une dizaine d'équipes avec une centaine de noms. Et au fur et à mesure, on échange, c'est-à-dire que une équipe accède à telle masse salariale, est-ce que le club peut le supporter? Donc il y a des échanges avec nous, les dirigeants, avec la présidente qui dit « moi, je veux bien aller à cette enveloppe ». La présidente me questionne sur l'arrivée de nouveaux partenaires ou le départ. Est-ce qu'on pourra être à l'heure parce qu'il n'est pas question de dépenser l'argent que nous n'avons pas. Ça, c'est une règle dans la maison que tu es de toi jamais. Donc, du coup, vous voyez, c'est comme ça, une tripartite, en fait, avec des échanges. Mais si on reste sur le sportif, eh bien, Julie, elle a des convictions de jeu, de stratégie.
Des besoins.
Et elle va donc recruter des joueuses qui rentreront le mieux possible dans sa future stratégie pour la saison prochaine.
Et alors moi je suis toujours curieux quand donc on parle de Basketland ou même des clubs à haut niveau qui viennent de petits villages parfois ou de petits endroits, parce que le basket c'est un sport international certes, mais c'est un sport qui est largement dominé par les Américains et par les Américaines qui viennent d'un monde complètement avec des stades universitaires, y compris pour les filles, et qui remplissent des dizaines de milliers de personnes. Quand on a une Américaine, parce que c'est le cas, il y en a toujours dans toutes les équipes, et parfois vous en recrutez chaque année, comment elles arrivent à s'intégrer, ces joueuses américaines qui viennent parfois de New York ou je ne sais d'où, quand elles arrivent, ouais, quand elles arrivent à Mont-de-Marsan, il doit y avoir des histoires...
On essaie de les accompagner, ouais. Mais là, je vous donne le dernier exemple, on en a parlé tout à l'heure, ouais. C'est Destiny Littleton, là, qui jouait en Israël, et il y a eu ces événements qui ont fait qu'elle a dû vite rentrer chez elle à Los Angeles, et nous, on l'a sollicité, c'était au mois de février-mars, pour remplacer notre capitaine qui s'était blessé, la Camille Roulier. Donc, elle est venue en tant que joker, ouais, médical, elle était à Los Angeles, elle s'est retrouvée, évidemment... au Sablard, à Mont-de-Marsan, on peut pas dire que...
Pas pareil, l'ambiance est...
Bah, c'est pas moche non plus, mais vous savez, elles ont une activité, c'est très rythmé, oui.
C'est professionnels,
entraînement, ouais. L'avion pour partir en déplacement, bon, elle...
Oui, mais l'avion, déjà, c'est un sujet, à Mont-de-Marsan,
On va à Bordeaux, on va prendre le train...
Le train, c'est compliqué, Mont-de-Marsan aussi.
On va à Bordeaux, mais au-delà de ça, ce que je peux vous dire, c'est que... oui, on essaie de les accompagner parce que l'atterrissage, il faut bien sûr qu'elle intègre, qu'elle est là pour un niveau de jeu et pas forcément pour
en plus,
une ville. Quoi. Une ville, entre guillemets, dans le sens où ça sera différent que aux États-Unis.
Et oui, en plus, là, c'est quelqu'un qui arrive en tant que joker médical, donc c'est pour un temps relativement court, donc performance immédiate, etc. Ouais. Bon, c'est des grandes professionnelles, hein, elles sont prêtes et autres, mais bon, toujours curieux de voir comment, voilà, socialement,
elles jouent dans un espace où il y a tel engouement.
Oui,
qu'elles
sont.
Elles sont contentes, en fait.
Ah bah oui, après, il y a des choses à découvrir, hein, forcément, même dans l'autre sens.
Évidemment.
Dans le département, il y a des choses à découvrir.
Bah, oui. On fait ça tous les jours.
Ils peuvent venir à Dax, à Cabreton, ce genre. Oui, non, c'est qu'on leur fait faire. Hein. Ouais. On leur fait faire ça.
Et oui, c'est un petit peu de tourisme.
Oui, on leur fait comprendre qu'on est un club de territoire et qu'il faut donc qu'elles aillent au-delà de la vie de Mont-de-Marsan.
Ça soit bien différent, d'ailleurs, de ce qu'elles vivent par rapport à ici et là-bas.
Bien sûr.
L'inclusion à la société, la manière de fonctionner. Là-bas, c'est peut-être, comment dire, plus pro, quoi. On va dire qu'ici, il y a le côté entre guillemets familial. Et peut-être
on essaye vraiment d'être là-dessus. Mmh. On essaye.
Et parlons un petit peu de la formation, de la politique de formation. Oui. J'imagine que vous avez développé pour arriver donc à ce niveau. Mais effectivement, en quelques décennies, j'imagine que vous avez un petit peu fait évoluer les choses. La formation a un rôle important à jouer pour la pérennité du club à haut niveau.
Oui, Vincent Joly et Jean-Michel Mouret. Vincent, qui est le directeur du centre de formation, avec Jean-Michel, qui est l'historique de la maison, font un travail admirable depuis l'origine du club. Hein, ils ont construit leur centre de formation, ils l'ont fait évoluer aussi dans la qualité, on a des joueuses qui sont nos petits espoirs cette année, ont fait un parcours admirable. Elles ont allé jouer le titre à Charleville-Mézières, elles ont gagné la Coupe des Landes ce week-end, elles ont fini dans les trois premières équipes du championnat espoir. On a des jeunes qui sont internationales, qui accèdent régulièrement aux équipes de France 3-3 ou 5-5. Non, il y a un vrai travail, une vraie qualité de travail. Et nous, on met les moyens que l'on peut mettre, mais on essaie de les augmenter au fur et à mesure, parce que c'est super important. Ça fait partie du cahier des charges de ce projet au niveau territorial. C'était la formation aussi qui était le moteur de...
Et la formation, c'est de l'investissement aussi dans peut-être du scouting pour aller chercher des joueuses qui sont au-delà du territoire. J'imagine que c'est important, évidemment, de ratisser autour des Landes, du Sud-Ouest, etc., pour garder cet ancrage et cette identité landaise. Pour maintenir ce niveau, vous disiez peut-être tout à l'heure que vous êtes obligé maintenant d'aller chercher les talents plus loin. Quoi.
On regarde un peu plus loin, parce que le sujet progresse aussi au niveau des pros, etc. Donc on essaie d'avoir plus d'effectifs à travailler, en fait. Simplement un chiffre, 8 joueuses professionnelles. 10 joueuses professionnelles sont sorties du centre de formation sur les dernières années. Là. Elles évoluent la plupart en Ligue 2.
Oui.
C'est très difficile de faire ce gap Ligue 2, Ligue Pro, surtout quand on est comme ça en tête du championnat, parce que on peut être pro à la 9e ou la 10e équipe du championnat, mais aller chercher au niveau de Euroleague chez une jeune, il faut souvent qu'elle aille faire ses armes ailleurs et revenir, ce que l'on espère, sur une ou deux joueuses, là, qu'elles reviennent plus armées et qu'elles soient plus compétitives.
Et alors le basket, en particulier le basket féminin, sont on ne mesure pas forcément, mais en termes de calendrier, c'est des choses qui sont assez complexes. Il y a plusieurs saisons dans la saison, notamment, peut-être qu'on pourra... qu'on peut avoir quelques précisions là-dessus. Il y a les filles qui sont internationales, qui jouent les campagnes internationales après la saison en France. Il y a l'Europe, donc soit Euroleague, soit Eurocoupe. Et puis, il y a des nouvelles tendances aujourd'hui. Alors, il y a la WNBA, le pendant féminin de la NBA, donc la Ligue américaine de basket, qui prend de plus en plus d'ampleur chez les filles. Et en fait, on n'a pas forcément... la mesure de ces choses-là, mais il y a une double saison, c'est-à-dire que les filles peuvent jouer en championnat de France sur une année et sur une autre partie de saison aussi parfois jouer en WNBA. Et la croissance de cette ligue-là vous enquiquine peut-être un petit peu aussi dans la programmation
des
effectifs et la gestion des calendriers.
Oui, alors il y a un facteur, faut pas être l'âne de bois là-dessus. Il y a la WNBA vient de négocier tout de l'an dernier ses salaires. Donc il y a les salaires ont été considérablement augmentés. Pour vous dire, une rookie en WNBA l'an dernier, c'était autour des 65-70 000 euros. Une rookie aujourd'hui, c'est 350 000 euros. Donc il y a une rehausse de ces salaires outre-Atlantique qui fait que
il y a de l'attraction,
qui fait que nos joueuses françaises ou même européennes se retrouvent sur des propositions salariales qui ne sont pas neutres dans la construction d'une carrière. C'est évident que les joueuses vont regarder. Hein. Donc il y a une difficulté pour nous de recrutement, etc., de position. Et vous avez en plus une compétition parallèle baptisée Projet B qui va voir le jour de novembre à avril, avec un circuit fermé. Il y aura donc 70 joueuses qui vont jouer pour des ligues fermées dans des plus grandes villes au monde, comme les circuits F1.
Comme un système de circuit F1. Effectivement, des ligues fermées, c'est des choses où il n'y a pas de montée, pas de descente pour les auditeurs. Donc, un enjeu sportif qui n'est
autre, autour du business,
qui n'est autre que de dire je me maintiens ou je performe. Donc, en fait, il y a les premiers du championnat qui se tirent la bourre à la fin et puis le reste de la saison.
Et avec des salaires identiques.
Du spectacle.
Oui, voilà.
Bien sûr, avec des salaires. Bien sûr, avec des salaires identiques à la WNBA au final. Et ces joueuses, donc, qui d'habitude à la fin du championnat de WNBA revenaient en Europe.
Voilà, c'est ça.
Bon, elles ne vont pas toutes revenir en Europe, elles vont partir.
Besoin,
Il y a un vrai sujet fédéral là-dessus.
Alors voilà, ça peut être donc un point noir pour l'évolution du basket, mais ça peut être aussi une opportunité pour les jeunes dont vous parliez, notamment la formation.
Absolument.
Les jeunes donc, que vous formez, qui vont plutôt en Ligue B, ça va peut-être permettre à certaines jeunes de s'épanouir plus vite ou de progresser plus vite, ou en tout cas peut-être à votre club de donner plus la chance aux jeunes. Il faut peut-être aussi voir ça comme une opportunité, quoi.
Pour les jeunes, il y aura forcément des places à prendre. Après, moi, par expérience, j'observe le sujet là avec mes amis là de Bastien-Land, parce que attention, tout ce qui brille n'est pas or. Les choix de certaines joueuses là sur le côté financier, attention aussi sur le contexte dans lequel elles vont évoluer. Il pourrait y avoir des retours aussi de ces joueuses. Oui. Mais en tout cas, ça permet à de jeunes potentielles françaises de prendre des places.
Très bien. C'est la conversation avance et l'émission aussi. On va faire une dernière pause, mais j'avoue qu'on aurait pu continuer encore longtemps comme ça. On va attaquer la dernière partie de cette émission après cette petite pause musicale. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de cette émission. Alors, on a un endroit dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le lieu lui-même, parce que c'est quand même l'endroit où ça se passe, tout ça.
L'endroit des matchs. L'endroit des matchs, donc c'est l'espace François Mitterrand à Mont-de-Marsan. Un écrin de 2600 places. Et alors maintenant que, plus que jamais, je dirais l'année prochaine, avec malheureusement la descente du stade Montois en national. Vous allez être l'attraction principale du territoire. Est-ce que vous avez des ambitions pour pousser un petit peu les murs de cette salle pour encore essayer d'aider le club à grandir?
Alors oui, on a des ambitions. L'attraction, en fait, faut savoir que le rugby a son public et le basket a son public. Hein. Et on s'aperçoit d'ailleurs que c'est le même. Parce que on a fait des stats un petit peu sur les partenaires et le public, et on voit qu'ils sont sur les deux structures, en fait. Donc je pense que c'est surtout une demande qui est déjà là. Et donc on a décidé d'acheter une nouvelle tribune de 600 et quelques places, qui sera opérationnelle au mois de septembre. Voilà, on fait ça parce que on a de la demande, bien sûr, de billetterie traditionnelle. On a encore des abonnés qui en veulent, aussi des places supplémentaires. Mais on a surtout une volonté de recevoir les clubs de basket landais et pas que, ou les collèges. C'est de permettre à des jeunes de pouvoir assister au match. Alors, on a cette première étape. On a une deuxième étape que l'on travaille, qui sera... le fait de surélever la salle, en fait, en créant une salle VIP de 400 personnes qui pourrait transformer en salle de séminaire et créer une centaine de loges. Voilà, ça c'est l'étape 2. Mais il y a une volonté, évidemment, de pouvoir accueillir un maximum de monde le plus vite possible.
Oui, parce que vous faites ça le combat à tous les matchs. Hein.
Oui, on a beaucoup d'abonnés, c'est une vraie force. Ouais. Mais du coup, ça limite les places pour les jeunes qui veulent venir épisodiquement, et voilà, ça pourra, je pense, répondre à la demande.
Donc là, intersaison, fin de la saison brillamment clôturée, la reprise c'est fin août à peu près.
Oui,
c'est ça. Vous récupérez les joueuses qui partent notamment faire les...
Alors, on récupérera des joueuses qui sont au championnat du monde, parce qu'il y a un championnat du monde là en août. On a notre premier match, c'est le trophée des champions à Roland-Garros, là, mi-septembre, à peu près.
Et donc, vous avez fait une petite revue d'effectifs cette année. Il y a eu 5 départs pour 5 arrivées.
C'est
Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter les nouvelles têtes qu'on verra
Oui, il y a une joueuse lettonienne, Dolby, qui est une joueuse qui jouait déjà dans le championnat de France, qui jouait aussi en Espagne. Une joueuse
une
intérieure qui est à 12 points de moyenne cette année, donc on pense qu'elle peut nous conforter, nous consolider le secteur intérieur. On a donc deux jeunes françaises qui arrivent, une petite Barami qui arrive de Charny, qui est un poste 3 à devenir, donc quelqu'un qui risque d'évoluer. C'est un pari que l'on fait un pari. Déjà, cette joueuse est déjà quand même confirmée sur ce qu'elle fait cette année. On a une joueuse portoricaine, une meneuse de jeu qui jouait dans le championnat déjà, qui joue aussi en sélection portoricaine. Très fluide, très vite, avec un bras, un joli bras, une shooteuse, mais qui a besoin de régularité. Je pense que le fait d'être entouré de joueuses comme nous avons là, cette année, va pouvoir lui permettre de passer
un cap.
Voilà, et donc ça peut être un joli pari. Une joueuse qui s'appelle Elanga, là, qui joue à Landerneau, joueuse confirmée, qui va venir jouer un poste 3-4. Remplacer Myriam.
Landerneau qui fait une très belle saison.
Il fait une très belle saison.
Quatrième.
Ouais, très attendu cette année. Hein,
vous disiez aussi que vous avez un rapport un peu particulier avec ce club parce qu'il vous ressemble un petit peu.
Il nous ressemble sur la construction du club, le territoire. On échange pas mal avec eux sur ce que l'on fait, ce qu'ils font. Ouais, une équipe qui nous ressemble dans sa construction, en fait, dans son club. Voilà, et une petite Lyonnaise qui va venir boucler le recrutement, qui a du potentiel, qu'on va lancer un peu plus, là, qui joue à Lyon cette année, mais bon, voilà, on espère qu'elle va éclore chez nous.
Avec peut-être quelques additions du côté de l'équipe Espoir, peut-être une ou deux joueuses qui vont faire l'ascenseur et qui vont...
Emma de Chanos qui était déjà avec nous, qui va le confirmer, j'espère, et une autre partenaire d'entraînement aussi.
On a Camille Chemin aussi, qui est de Saint-Jour.
Camille Chemin, qui est Saint-Jour, mais qui nous quitte. Qui rejoint la capitale sur un projet différent.
D'accord. Bonne continuation à elle.
Oui.
Très bien.
Voilà. Alors moi, j'ai bien réfléchi, mais je sais pourquoi il y a une affinité aussi grande entre les Landes et le basket.
Ah.
Mais c'est à cause des échasses. Forcément, on est avantagé. Ouais. Et du coup, on accepte d'enlever nos échasses pour se mettre au même niveau que les autres. Et ça, c'est sportif comme esprit quand même.
Nous, vous savez, je rebondis là-dessus. C'est la pigne, notre emblème du club.
Ah oui.
Pour toute l'histoire autour de la pigne. Et de bon voilà, il y a toute une, mais c'était en fait le l'objet qui a fait toute la saison et qui est devenu aujourd'hui sur notre maillot, que l'on va garder comme un petit peu
un totem.
Le fil rouge et le thème de... du club.
D'accord, très bien. Bon ben merci beaucoup pour le pour la qualité de
des échanges. Pour le temps passé.
C'était vraiment super intéressant. Voilà, au-delà de voir au-delà des chiffres, hein, des chiffres, des classements, des maths, etc. Ben, la mécanique aussi des choses et puis la partie, on a bien compris, comme toujours, la plus importante, hein, c'est l'humain. Voilà.
Mais bien sûr. Voilà,
donc, merci à vous parce que je vous suis, je sais que c'est dur pour vous aussi, de continuer à maintenir ce niveau de professionnalisme que vous avez. Et je vous félicite parce que, voilà, moi je dis souvent à mon conseil d'administration et que la plus grande victoire, c'est de durer. Il faut durer dans tout. Et donc, je vous félicite.
Très bien. Merci beaucoup.
Félicitations retournées.
Merci. Merci beaucoup.
Merci pour les félicitations et félicitations à vous. Parce qu'effectivement, comme tu disais, Jean-Philippe, on voit que c'est un club à taille humaine au-delà des résultats sportifs fantastiques dont nous sommes tous très fiers dans les Landes.
Voilà, merci beaucoup Pierre. Marc et Pierre, au revoir, merci beaucoup.
À très vite.
Au revoir.